Radio Caravane.
Radio Caravane. De l'ombre des coulisses
à la lumière de la piste.
Radio Caravane.
Bonjour tout le monde, vous êtes à l'écoute de Radio Caravane. Aujourd'hui, nous accueillons la compagnie Mesdemoiselle pour nous parler du spectacle Bonjour Bonheur, proposé dans la 7e édition de Créatrice. Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous commencer par vous présenter et nous dire vos pronoms d'usage ?
Avec plaisir. Du coup, moi, c'est Laure Bansillon. Je suis la directrice artistique de la compagnie Mesdemoiselles. Et en effet, on joue dimanche à 16h30 dans le cadre des Créatrices. Et là, c'est la reprise du spectacle que nous n'avons pas joué depuis 6 mois, puisque c'est un spectacle qui joue essentiellement en rue l'été.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de la compagnie Mesdemoiselles ?
Carrément. Mesdemoiselles, elle a été créée, la compagnie, quand j'étais encore à l'école, à Fratellini, il y a une pelletée d'années, c'était en 2009. On a créé la compagnie, on était plusieurs au départ. Et au fur et à mesure des années et des projets, maintenant je suis toute seule à la tête de la compagnie. Il y a eu plusieurs spectacles en rue, il y a eu Loca, il y a eu Memento, qu'on a déjà joué ici. Il y a Chimère, qui est toujours en tournée avec un musicien en live. Et il y a eu aussi un projet de territoire avec un chapiteau. Donc il y a tout ça sur le site internet de la compagnie. Mais là, la dernière créa, c'est Bonjour Bonheur, qui est sortie au printemps dernier en regard extérieur avec Alexandre Pavlata.
Et pourquoi le nom Mesdemoiselles ? Est-ce que c'est une réappropriation d'un terme désuet ou un clin d'œil féministe ?
C'est une bonne question parce qu'on nous la pose tout le temps. Dans la petite anecdote, au départ, on ne s'appelait pas Mesdemoiselles, on s'appelait Du bruit qui court. Et en fait, y a longtemps, du coup, il y a 16 ans, il se trouve qu'on était deux compagnies qui avaient le même nom. Et c'était plus théâtre et nous plus cirque. Et on était toutes jeunes et on s'est dit, on ne peut pas avoir le même nom. Donc on a réfléchi à un autre nom. Et vraiment, Mesdemoiselles, c'est arrivé à un moment où on était deux à diriger la compagnie. On était deux, donc pas une madame, pas une dame, mais des Mesdemoiselles. Et il y avait toute cette histoire du nom qui était en train de disparaître autour de Mesdemoiselles, d'être mariée, pas mariée. Mais il n'y a pas du tout de connotation féministe. C'était vraiment juste, on est des meufs et du coup, on gère cette compagnie, donc on l'appelle comme ça. Mais on travaille aussi avec des garçons et on aime beaucoup les garçons et il n'y a pas de problème avec ça.
On a lu que le spectacle Bonjour Bonheur se joue principalement en extérieur. Quelles sont les contraintes techniques, administratives ou autres que l'on peut rencontrer lors d'une représentation comme celle-ci ?
Ouais, c'est ça. Nous, la compagnie, depuis le début, on défend le fait de jouer dehors. Même si on propose des spectacles parfois où il y a besoin de silence, où il y a des suspensions. En fait, on se dit que c'est pas parce qu'on est dehors qu'on peut pas proposer des choses qui sont fines. Après, ça demande en effet du taf, dans le sens où si tu t'emmerdes, tu te lèves et tu t'en vas en rue, contrairement à un théâtre. Et après, les contraintes, c'est qu'il faut être le plus autonome possible. Il faut avoir le moins de demandes. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on a réalisé au bout de 15 ans en rue, et aussi parce que c'est un peu la crise. Donc, du coup, on essaye d'être le plus autonome possible, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau du montage, du démontage. Ça implique qu'on doit tout faire. Moi, je charge mon camion, je conduis mon camion, je démonte mon matériel, je l'entretiens, je fais des aériens. Du coup, j'ai besoin d'un portique. Et dans Bonjour Bonheur, on a pris la décision d'avoir un portique autonome, encore une fois, pour ne pas avoir besoin de planter des pinces, avoir une autorisation. Donc on est en mode plus autonome possible. Et les contraintes de jouer dehors, c'est la pluie, essentiellement. Un peu le vent aussi, maintenant, parce qu'on a des ballons. Et du coup, il faut qu'on réfléchisse à des petites astuces pour pas qu'ils partent. Ça nous est arrivé l'année dernière. Et après, la pluie, d'ailleurs, j'en parle. Il est possible que peut-être dimanche, il va pleuvoir, malheureusement, alors que là, on est avec le soleil sous notre tête. Mais c'est pas grave, parce qu'on peut jouer dans le lieu de repli. Et donc, ça pourra quand même être maintenu. Mais en effet, la grosse contrainte de la rue, c'est qu'on est tout le temps en train de regarder la météo pour savoir s'il faut ranger ou pas le matériel de cirque, surtout. Parce que le reste, ça peut rester dehors.
Ce spectacle peut aussi être joué dans une forme proposée en espace intérieur. Qu'est-ce que ça change à celui-ci ? La mise en scène est-elle la même ?
C'est des très bonnes questions, tout ça. Non, en vrai, il y a un truc toujours très étrange. Encore une fois, là, je parle d'expérience. C'est qu'on passe très souvent tout l'hiver à créer des spectacles. Là, c'est donc le 4e de la compagnie. Et en général, on joue dehors. Du coup, il y a toujours un moment où on est confronté à l'espace public, au bazar, à la tension et tout. Et non, c'est pas du tout pareil. Par exemple, quand tu fais une créa en théâtre et que tu veux un focus intimiste, tu vas mettre une petite douche dans un coin de l'espace et ça va attirer ton regard et ça va permettre au spectateur de t'emmener quelque part. Nous, en rue, c'est même pas, il n'y a même pas de créa-lumière, donc c'est vraiment, tout est ouvert. Et donc, c'est à nous de faire le taf, de nous suivre dans ce qu'on a à dire ou dans ce qu'on a à faire. Par contre, la décision de ce spectacle, c'est qu'on est sonorisé. Donc, on a des micros, casques, ce qui fait qu'on peut aussi avoir du jeu un peu plus fin, même s'il y a 500 personnes. Alors qu'avant, il y avait cette idée de devoir être entendu par tous. Et sans micro, c'était encore un autre exercice. Alors que là, ça permet d'avoir cette finesse-là dans le jeu, qui est assez, en tout cas, nous, comédiennes, assez agréable.
Donc là, on va un petit peu plus parler de votre spectacle. Donc bonjour, bonheur. Nous avons lu que l'idée de votre spectacle vous est venue durant la crise sanitaire de Covid-19. Cela vous a-t-il posé la question de redéfinir le bonheur ?
Carrément. Bah, c'est complètement ça. Confinement, plus de travail, beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on fout ? Qu'est-ce qu'on fout là ? Sans parler du travail, hein, qu'est-ce qu'on fout tout court ? Moi, j'avais un petit garçon à cette époque-là. Donc, qu'est-ce que je lui apprends aussi ? Qu'est-ce que c'est les priorités ? Qu'est-ce que j'ai plus envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de démarrer ? Et à cette période-là, tout était beaucoup derrière les écrans. Et il y avait 50 000 propositions pour aller bien. Quoi qu'il arrive. Du coup, on est enfermé chez nous, mais on peut faire du yoga à la maison. On est enfermé chez nous, mais on peut faire des petites recettes super géniales pour rester équilibré. On est enfermé chez nous, on va devenir taré, mais vous inquiétez pas, on peut faire des thérapies à travers des Zooms. Et en fait, il y avait tous ces trucs-là où nous, on se disait, waouh, mais qu'est-ce que c'est le choix de tout ça ? Et donc, il y a eu vraiment cette question de... On n'a pas eu le droit d'aller mal. Il fallait tout de suite qu'on aille mieux. Et donc, on a réfléchi autour de l'injonction. Du bonheur, l'injonction de dire tout le temps « Allez, vite, vite, faut se relever, quoi. » Et du coup, là, on est parti de cette base-là pour cette créa. Qu'est-ce que c'est le bonheur ? On n'a pas la réponse encore. Hein. En tout cas, qu'est-ce que c'est ? Et est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce que c'est palpable ? Est-ce que c'est si important ? Enfin, on essaye d'évoquer tout ça, quoi. À travers le spectacle.
Comme vous venez de le dire, le bonheur est une notion subjective. Pourtant, la société nous pousse à adopter sa vision du bonheur. Donc, grosse voiture, belle maison, trois enfants, deux chiens, un chat, un grand jardin électroménager, dernier cri, par exemple.
Bah, c'est ma vie. Nickel.
Comment déconstruire cette vision que le peuple adopte inconsciemment ? La satire que vous proposez dans Bonjour Bonheur pourrait être une piste.
Bah, après, moi, je prétends dans aucun spectacle donner la clé ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'aimerais réussir à faire dans Bonjour Bonheur, c'est juste déjà faire réfléchir un peu et pouvoir s'identifier dans peut-être certaines comédiennes ou certaines scènes. Ce que je peux juste dire là dans le spectacle, c'est que c'est l'histoire d'un plateau de télévision avec une présentatrice qui gère cette émission depuis 10 ans sur le bonheur et en effet qui est derrière son écran et toujours un peu en forme. Et là, il se trouve qu'en fait, elle n'en peut plus et elle va complètement craquer. Et du coup, nous, on va essayer de trouver des solutions pour pas qu'elle craque. Jusqu'à ce que finalement, on se rend compte que peut-être que c'est pas mal de passer par le craquage. Et on se pose beaucoup la question, nous, personnellement, dans nos vies, c'est qu'on a quand même la sensation que pour pouvoir atteindre le bonheur, il faut être un petit peu passé par le malheur quand même. Je mets des gros guillemets, hein, bien sûr, mais en fait, c'est pas, on peut pas toujours être en haut, quoi. C'est la vie qui fait qu'on apprécie le bonheur aussi quand on a traversé un peu des choses compliquées. Et c'est que dans notre société, on n'accepte pas de rester dans ces périodes compliquées. Il faut vite en sortir, par faire du yoga, par... Et là, nous, on essaye de dire dans le spectacle, bah, et pourquoi on resterait pas un peu plus longtemps et qu'on irait au bout du moment où on n'est pas bien, pour essayer de comprendre pourquoi on n'est pas bien. Et pour... Ça, c'est nous, c'est nos histoires perso. Après, est-ce que c'est perçu sur le plateau ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de... Pour être heureux, il faut faire comme ça. Venez voir le spectacle, on va vous donner la réponse.
Il y a plusieurs moyens possibles pour transmettre une conviction, une pensée, une critique. L'art, sous toutes ses formes, en fait partie. L'humour aussi, notamment burlesque à l'image de Bonjour Bonheur. Comment ne pas noyer le message que l'on cherche à véhiculer dans ces gags ? Y a-t-il un juste milieu à trouver entre humour et engagement ?
Ah là là, mais c'est hyper technique, votre question est très bien. C'est ça, bah, je ne sais pas si on va y arriver. Hein. Voilà, je pas de prétention. Oui, en effet, on a envie de parler de ce sujet. On sait que c'est universel. On sait qu'il y a des gens qui sont réellement en burn-out. Et nous, dans notre équipe, on a traversé ça aussi. Donc ça nous touche. Et après, moi, je suis directrice de la compagnie, mais j'ai quand même eu envie, en sortant de toute cette crise sanitaire, de me dire aussi, j'ai aussi envie de, moi, égoïstement, kiffer sur le plateau et pas trop me prendre la tête, quoi. et aussi être aussi dans un truc... bah ouais, j'ai aussi envie que ça parle à tout le monde, que ce soit populaire et qu'on passe un bon moment et qu'on se marre aussi. Et donc, du coup, ben, l'équilibre entre faire passer un message, parler d'un sujet profond, mais quand même se marrer, être con, mais pas ridicule, et ben ça, j'ai envie de te dire, tu me diras dimanche. Et on est encore en travail, donc oui, il y aura peut-être des maladresses, et c'est sûr, et on n'a pas tous le même humour aussi. Hein.
Comment garder la face à toutes ces nouvelles anxiogènes en ce moment, comme la montée du fascisme, les soutiens à la culture en chute libre, le bonheur est-il une ressource épuisable ?
Franchement, comment je pourrais aborder cette réponse Moi, dans ma vie, en ce moment, je traverse un drame familial, une maladie qui est en train d'emporter quelqu'un de très proche de moi. Et du coup, ça me permet de me focaliser sur ça. Ce qui compte, c'est être vivant, être en vie, en bonne santé. Et là, moi, je suis là-dessus en ce moment. Et du coup, je t'avoue que... Poutine et Trump, c'est une grosse blague pour moi et je préfère pour l'instant, même si je sais que c'est une réalité, hein, mais en tout cas, moi, c'est mon moyen de défense. C'est très personnel, hein, ce que je dis. Hein. Mais mon moyen de défense en ce moment, c'est de me dire que j'ai pas envie qu'il rentre dans ma vie en ce moment et que j'ai de la chance de faire ce métier, d'être au plateau, d'être en bonne santé et que j'ai envie d'en profiter et j'espère pouvoir le partager avec le public. Cet été, quand on va tourner, quoi. Si, on peut encore tourner, mais pour l'instant, moi, avec mes petites pattes, je ne vais pas pouvoir changer grand-chose.
Vous utilisez un décor de faux plateau TV dans Bonjour Bonheur. Est-ce pour parodier l'idée que les femmes à la télévision peuvent souvent être perçues comme des femmes-objets ?
Alors, franchement, non. Enfin, on ne sait pas. Oui, bien sûr que peut-être qu'il y a cette image-là et que c'est sans doute évoqué parce qu'on est trois femmes au plateau. Mais j'ai l'impression que ça pourrait aussi fonctionner avec trois mecs au plateau, très sincèrement. Après, je suis consciente hein, qu'on est des meufs et que, par exemple, à un moment donné, il y a un pétage de plomb sur la charge mentale, famille, enfant. Et que forcément, peut-être que de la bouche d'une femme... ça va résonner plus vers des femmes, mais moi, mon conjoint, il gère la charge mentale, il est aussi en tournée et il pourrait aussi péter un plomb comme moi sur le ballon en disant les mêmes mots. En tout cas, j'ai pas envie que ce soit forcément perçu comme une image de la femme. En plus, moi, je trouve que ces derniers temps, il y a de plus en plus de journalistes et de meufs à la télé qui envoient du lourd et je trouve que c'est bien si ça continue comme ça, ouais.
Les femmes à la télévision, les présentatrices, les animatrices jouent-elles un rôle prédéfini ? Donc, dans votre spectacle, je parle. Leur représentativité a-t-elle évolué, selon vous ? La télé-réalité ne véhicule-t-elle pas encore des clichés et stéréotypes imposés par le patriarcat ?
Ah bah si, enfin... En fait, il y a, je sais pas comment dire, il y a double vitesse, quoi. Il y a des endroits où on fait des grosses avancées, il y a des filles hyper engagées et qui se retrouvent avec des responsabilités réelles et tout. Il y a ça, et il y a un autre côté où on est encore dans des délires... Enfin, moi, je suis très peu connectée aux réseaux sociaux, mais on a un peu plongé dedans pour pouvoir s'inspirer d'une scène, en l'occurrence... qui est un tuto beauté pour garder son sourire en toutes circonstances. Et dans le spectacle, justement, on se retrouve on va hyper loin pour garder ce sourire. Et c'est la satire, elle est de bah, jusqu'où on va, en fait. Donc, je suis complètement d'accord, mais je trouve que ça déteint aussi sur les mecs. Moi, quand je vois là les mecs de 60 ans qui se refont complètement faire le visage, qui sont comme ça... En fait, ça touche autant ça commence à toucher aussi les hommes que les meufs de garder toujours le truc de l'image. Mais double vitesse, quoi. Et oui, la télé-réalité, franchement, mais ça fait de la peine pour les meufs et pour les mecs. Hein. Enfin, moi, je trouve pas que ce soit que les meufs. Hein. Les mecs, c'est aussi assez bas étage, quoi.
Les femmes qui jouent le rôle de super-vilaines sont des femmes fortes, de caractère. Beaucoup de femmes dans le civil apprécient ces personnages, et moins les princesses ingénues à devoir sauver. Dans les jeux vidéo aussi, la représentation des femmes évolue. Malgré les clichés persistants, quel regard portez-vous sur tout ça ?
Les super-vilaines, c'est vraiment venu de là, en fait... De transformer, de... En fait, on a fait un peu des recherches sur les super-héros, quand est-ce qu'ils sont arrivés, c'est quoi la symbolique ? Et d'ailleurs, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Hein. C'est plutôt les mecs qui sauvent le monde. Et à l'époque, ils sont arrivés aux États-Unis à une période où tout le monde était un peu en burn-out et tout le monde sautait par la fenêtre, quoi. Et du coup, le seul recours qu'on a eu, c'est d'imaginer des personnages magiques qui allaient nous sauver la vie. Et on a fait un peu un état de fait de... En fait, quand on en arrive là, c'est qu'on est vraiment un peu désespéré, quoi. Si on n'a plus qu'à croire en super-héros pour sauver ta vie de merde, du coup, nous, on a renversé le truc et on s'est dit qu'on allait être des super-vilaines et qu'on allait être plutôt dans la satisfaction de voir les gens malheureux. Et on a envie de combattre ce bonheur persistant et invasif de tout le temps être heureux et de leur dire avec nos super-vilaines, mais soyez malheureux, profitez-en, ça fait aussi partie de la vie. Qui fait ça? Et en effet, on est un peu mochette dans ces super-vilaines. On n'a pas le joli string avec la belle poitrine rebondie, mais on est plutôt... On est plutôt gollumesque, quoi, je sais pas comment dire. Et d'ailleurs, nous, physiquement, on s'amuse beaucoup dedans aussi, parce qu'on casse aussi un peu cette image, en tout cas dans les super-vilaines, de tenir la face. C'est aussi de tomber le masque et de boucler la boucle, quoi.
Quand on est une artiste de cirque, on n'est créé pas de la même manière à 25 ans qu'à 40, 60 ans.
C'est sûr.
Quel rapport au corps avez-vous? Comment ressentez-vous votre corps qui change? Votre façon de faire du cirque évolue-t-elle avec le temps?
Eh ben, ouais, carrément. Ça évolue beaucoup, parce que moi, j'ai 40... 40, c'est bien. Regardez, il y a 40. C'est très bien. Et j'ai deux enfants aussi. Ça, c'est une question qui s'est posée aussi dans le spectacle. Là, par contre, en effet, ce serait un spectacle que de mecs de 40 ans. C'est pas la même chose. Et ouais, il y a ce truc-là aussi... C'est lié au cirque, mais c'est aussi lié à notre société, hein, de garder la jeunesse, de garder la forme, de garder les abdos, le gainage. Et finalement, en vieillissant, le rapport au corps, il est que... c'est très personnel, hein, mais moi, je prends plus soin et je prends plus le temps de m'échauffer, de me dire, là, ce matin, j'ai un peu mal au genou, du coup, je vais m'écouter et je vais peut-être pas faire la scène acrobatique, alors qu'il y a 10 ans, je l'aurais fait à fond et je me serais pas forcément écoutée. Donc, ce rapport-là, il change. J'ai l'impression qu'on est... Enfin, moi, en tout cas, j'essaye d'être plus douce avec moi. Et du coup, je vais pas performer pour la performance dans mes spectacles. Il faut que si je monte sur la corde, c'est que j'ai un truc à raconter avec la corde, quoi. Et le joli numéro, il en existe encore et j'en fais encore, mais c'est pas le même propos et c'est pas la même, c'est pas le même angle d'attaque, quoi. Et après, nous, dans nos créations, dans Mesdemoiselles, ça a toujours été ça. On a fait des écoles de cirque, on a un niveau technique, mais moi, ça m'a jamais suffi. Du coup, j'ai toujours voulu que ce soit lié à un autre art, quoi. Quand on a commencé la première créa, il y a 10 ans, c'était avec du théâtre. Après, on a fait venir une chorégraphe. Après, on a fait venir un musicien. Et là, on fait venir un metteur en scène clown. Et donc, moi, je me dis qu'à chaque créa, il y a un nouveau défi où je me frotte à quelque chose que je ne sais pas faire. Et du coup, je sors de ma zone de confort et du coup, je vais aller voir. Ça, c'est mon côté circassien aussi, peut-être, d'aller essayer des choses... Mais pas que dans le cirque, aussi dans la manière d'écrire. C'est plutôt l'art en général. Et après, si, techniquement, j'ai mis des mousses sur mon tapis de danse. Ça fait moins mal aux genoux.
Ah oui, j'avais vu ça sur la fiche technique, oui.
Ouais, c'est vrai qu'avant, tu vois, on faisait ça sur le sol, sur le plancher. Et là, maintenant, on a investi dans de la douceur pour quand on fait des cascades.
Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Un site, des réseaux, des dates à venir après Créatis, peut-être?
Carrément! www.ciemesdemoiselles.fr Raphaël fait ça beaucoup mieux que moi, c'est elle qui a la diffusion. Aurélia et Raphaël à la diffusion travaillent avec moi pour organiser les tournées et organiser les résidences. Et oui, on a donc là on est en résidence, dimanche on joue, ensuite on refait encore une résidence de travail parce que forcément moi j'estime que le spectacle il a besoin de jouer, d'avoir des retours pour maturer et pour aller un petit peu plus loin que là où on en est aujourd'hui. Et il y a un Facebook de la compagnie. C'est pas moi qui le gère, hein, je vais être tout à fait honnête. Il y a un Instagram de la compagnie. Il y a un site internet de la compagnie où on peut retrouver les actualités et les projets précédents aussi. On fait beaucoup aussi de médiation. C'est peut-être mon grand âge aussi qui me donne plus aussi envie de transmettre, justement. La transmission, d'être au plateau, qu'est-ce que ça veut dire, et mettre du sens aussi dans tout ça. Et après, dans les dates, en vrai, on a quand même pas mal de dates. Dans le coin, on rejoue à Montauban, je crois que c'est pas très loin.
Non,
c'est pas le genre samedi 23 mai, c'est possible ça ? Un truc comme ça. Peut-être que c'est pas le 23 ou le 24, enfin voilà. Ça, c'est dans le coin. Et après, on a une tournée. Bah, sur le site internet, il y a les dates. On est prise à Châlons-dans-la-Rue, donc on va aller jouer là-bas. Et il y a pas mal de dates tout l'été jusqu'à septembre, fin septembre. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup pour votre temps, votre énergie et bisous cordiaux.
Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle proposé par la Grainerie et les associations Médias Communs et Yves Assam Studio.
Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web média.
Ils et elles couvrent la programmation de la Grainerie en réalisant des émissions et interviews diffusées sur une dizaine de radios partenaires.
Ce programme est placé sous licence libre Creative Commons, attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.
Retrouvez tous les podcasts sur radiocaravane.net.